Bon, je peux continuer là maintenant? Je peux commencer? Bon, très bien. Bon, vous êtes au courant de la manière dont s'est fait la création du monde, d'après la Torah, la création du monde se fait en quatre phases, en fait. C'est-à-dire que chacune des parties de la création du monde qu'on appelle, par analogie dans la Torah, des jours, n'est-ce pas? Premier jour, deuxième jour, etc. On voit qu'il y a quatre phases différentes qui sont le projet, la réalisation, le jugement et la récapitulation. Projet, jugement, non, projet, réalisation, jugement, récapitulation. Eh bien, non, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Que la lumière soit, c'est quoi ça? Projet. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et sépara de la lumière des ténèbres. Jugement. Il fut soir, il fut matin, jour premier. Récapitulation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu le premier jour. C'est ça le premier jour. D'accord? D'accord? Bon. Dans l'ensemble, c'est plus ou moins comme ça que ça apparaît dans tout le récit de la création. Mais ce qui m'intéresse à ce moment précis, c'est le sujet, la quatrième phase. La quatrième phase, on a dit, c'est la révélation. Eh bien, à la fin du premier jour, la Torah nous dit, Vayi boker yom echad, il fut soir, il fut matin, jour 1. N'est-ce pas? À la fin du deuxième jour, la Torah nous dit, il fut soir et fut matin, jour deuxième. À la fin du troisième jour, la Torah dit, il fut soir et fut matin, jour troisième. À la fin du quatrième jour, la Torah nous dit, tu connais par cœur les versets de la Torah. Très bien. Il connaît par cœur, donc, il fut soir et fut matin, quatrième jour. À la fin du cinquième jour, la Torah nous dit, Vayi arei vayi boker yom chamishi, il fut soir, il fut matin, jour cinquième. À la fin du sixième jour, Vayi arei vayi boker yom ha shishi, il fut soir, il fut matin, le sixième jour, ou bien jour le sixième. Et puis après, vous avez Vayi chulu hashamayim vaaretz vechol tzevaam. Le ciel et la terre et toutes leurs armées furent achevées. Vayichal Elohim vayom hashivayim melachto asher asa. Et Elohim cessa, lors du septième jour, tout le travail qu'il avait achevé. Vayvarech Elohim et yom hashivei, vaykadesh oto. Non, vayishbod bayom hashivei mikol marto asher asa. Il cessa, lors du septième jour, tout l'ouvrage qu'il avait achevé. Vayvarech Elohim et yom hashivei, vaykadesh oto. Elohim bénit et sanctifia le septième jour. Kivro Shabbat Mikol Melarto, car en lui il avait cessé tout son ouvrage, Asher Bara Elohim la Asot, que Dieu avait créé afin de l'achever, Vayi Erev Vayi Boker Yom Hashivi, il fut soir, il fut matin, le septième jour. Jusque-là, ça va? Donc vous admettez que la citation que j'ai faite, vous êtes plein de confiance, que la citation est vraie. Pourquoi non? C'est pas dans le... Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le texte? Vous n'avez pas le texte. Mais alors donc tu m'accuses, en fait, de mensonge. Ah, mais si. D'accord, bon, d'accord, c'est une façon polie de dire ça. En vérité, tu as tout à fait raison, j'ai menti. Le verset Vayi Aere, Vayi Boker, Yom Hashivi, il fut soir, il fut matin, septième jour, n'existe pas. Qu'est-ce qui reste à la place? Sabri Maranam. Il faut même savoir, mais pourquoi est-ce qu'il n'existe pas? Tonnerre de.
Comment?
Donc, ce que vous dites, très bien. Donc, vous avez bien compris mes enseignements. Nous sommes encore dans le septième jour. Le septième jour n'est pas fini. Donc, on ne peut pas dire il fut soir, il fut matin, septième jour. Comment ça? Pas du tout. On dit, et pas hier. La Torah nous parle de ce qui se passe pendant le septième jour. Elle ne nous dit pas que le septième jour est achevé. Conclusion, il n'est pas achevé. D'accord? C'est tout bête, d'accord? C'est-à-dire que l'histoire des hommes, le lieu où se réalise l'histoire des hommes, c'est le septième jour. Jusque-là, vous suivez? Bon, c'est une chose que vous connaissez déjà. Et donc, ce septième jour dure très longtemps. Selon la tradition talmudique, il doit durer 6000 ans. D'accord ? Pourquoi 6000 ans ? Parce que pendant ces 6000 ans, nous faisons comme ce qui s'est passé dans les 6 premiers jours. D'accord ? C'est-à-dire que chacun des 6000 ans du septième jour correspond à un des 6 jours de la création. Donc le sixième millénaire, c'est le vendredi du samedi. C'est-à-dire, c'est le sixième jour au sein du septième jour. Voilà, c'est plus clair maintenant.
Mais est-ce que ça a un rapport aussi avec... on a recréé les eaux, on a recréé la lumière, on a recréé les eaux, on a recréé...
C'est pas impossible, mais comme c'est en dehors de mon sujet, je m'en fiche complètement, donc je vais continuer. Bon, donc je continue. Le septième jour, donc, n'est pas achevé, c'est le lieu où l'homme agit. C'est ça, puisque la Torah dit « Kivo Shabbat mikol melarto asher bara Elohim » c'est là qu'il a cessé tout ce qu'il avait créé, là à Sot, afin de l'achever. Et donc il y a une partie de la création qui était inachevée. Cette partie de la création qui est inachevée et qui doit être achevée pendant le septième jour, c'est quoi ?
Après le septième jour ?
Non, après le septième jour, on n'y est pas encore. On est dans le septième jour, là, maintenant. N'est-ce pas ?
Est-ce qu'on doit achever avant le septième jour ?
Oui, avant le huitième jour. Qu'est-ce que, pendant le septième jour, on doit achever ? Quelle est la partie de la création qui est encore incomplète ? C'est l'homme. C'est l'homme, évidemment, puisque pour l'homme, il est dit dans le projet Vayomer Elohim Naase Adam, puisque Dieu a dit faisons un homme achevé, assez, c'est complet. Et ce qui s'est passé dans la réalité, au verset 27, Vayivra Elohim et Adam, Dieu a créé l'homme, il n'y a pas écrit qu'il l'a achevé. Et donc, si dans le septième jour, il est écrit Kivo Shabbat Mikol Melarto Asher Bara Elohim, puisqu'il a cessé tout le travail qu'il avait créé, qu'il avait donc commencé, là, saute afin de l'achever. Donc, il y a une partie de la création qui était inachevée. Et cette partie doit être achevée pendant le septième jour. Là, c'est la partie en question qui n'est pas achevée, comme vous l'avez si bien compris, c'est l'homme. Et donc, l'homme a tout un travail pendant l'histoire d'achever la création. Jusque-là, vous me suivez ?
Oui.
Bon, très bien. Donc, il y a toujours un sentiment d'inachèvement qui fait que, par exemple, l'homme cherche à ajouter quelque chose à la nature. Par exemple, l'homme a des vêtements. Nous sommes le seul animal qui porte des vêtements, et les vêtements changent. Il y a quoi ? C'est quoi ça ? Les vêtements changent, il y a la mode, mais c'est pas seulement les vêtements, c'est la culture. Il y a une évolution culturelle, indépendamment de l'évolution biologique. L'évolution biologique est très lente, ça prend des millions d'années, mais l'évolution culturelle, ça va très vite. Et donc, on a le sentiment que l'homme est en transformation, donc il cherche toujours à s'habiller. D'ailleurs, ce sentiment est encore plus fort dans la conscience féminine. C'est pour ça que lorsqu'une femme a une armoire pleine d'une garde-robe, qu'est-ce qu'elle dit ?
Je n'ai rien à me mettre.
Ça veut dire que, et on est encore à la recherche du vêtement idéal. Ça fait partie donc... Quoi ?
Au final, la recherche du vêtement, c'est pas la recherche du soi-même aussi, en fait ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, on est un peu ce que l'on revêt. D'accord ? L'habit ne fait pas le moine, mais enfin, un petit peu quand même. Et donc... Ouais, ça rigolo. Ouais. Oui, mais il y a toute chose. C'est la surprise des citations. Bon, alors, je reviens un peu en arrière. Il y a cela à achever. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi qu'il faut faire exactement ? Le vêtement, ça a l'air insuffisant. Je ne pense pas que l'homme a été créé uniquement pour se vêtir. Donc, il y a autre chose. Alors, la Torah nous donne une indication. Dieu a béni le septième jour et l'a sanctifié. Ça veut dire qu'il y a une finalité du septième jour qui est d'accéder à l'état de sainteté. Alors le problème, c'est que l'état de sainteté n'est pas très clair ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que l'état de sainteté ? En tout cas, la Torah nous dit dans la paracha de Kedoshim, au chapitre 19 du livre de Vaïkra, d'abord, El kol adad beni Israël va marta alehem, Kedoshim tiou. Parle à toute l'assemblée d'Israël et tu leur diras. Vous serez saints. Tout problème de savoir, est-ce que c'est une mitzvah, est-ce que c'est une finalité ? En tout cas, ce que dit le Rambam, cela veut dire que lorsque vous aurez accompli tout ce qu'il y a à accomplir, toutes les mitzvot et tout le reste, eh bien, vous accéderez à cette situation de sainteté. Donc, si c'est vrai ce que je dis là, ça voudrait dire que viendra un temps où il y aura écrit dans la Torah, « Vayihiyu kedoshim » et ils furent saints. « Vayar Elohim kitov » et Elohim vit que c'était bien. Vayehi aire, vayehi boker, yom hashevi, il fut soir, il fut matin, septième jour, et alors commencera le huitième jour.
Oui, le fait d'être saint, c'est la finalité du sacrifice.
C'est ce que j'ai dit, oui, effectivement.
aujourd'hui là, le point de vue juif, il est pas sain.
Alors, au niveau du klal, c'est au niveau de la collectivité d'Israël, l'âme collective d'Israël est déjà, a déjà accédé à la sainteté. Mais chacun individuellement, toi, moi, l'autre, c'est ça, il y a encore un problème. C'est-à-dire que ça, ça explique d'ailleurs pourquoi nous nous permettons, nous autres les juifs, de cesser le travail une fois par semaine. C'est absolument un scandale. Comment ? Le monde n'est pas encore achevé, on se repose. D'accord ? Ça veut dire qu'au niveau, c'est-à-dire que nous avons déjà l'intuition d'un monde idéal, et donc nous nous permettons une fois par semaine de faire le Shabbat. D'accord ? Et donc, quoi ? Oui. Oui, mais pourquoi ça nous a été ordonné ? C'est la même chose. Je comprends que l'expression « on se permet » allait vous choquer, mais c'est pas grave. Parce que se permettre, c'est vrai que quand c'est pris au niveau individuel, ça remet en question la révélation. Mais quand il s'agit au niveau du klal, la Torah est donnée au klal, disons, en accord avec la collectivité d'Israël, en accord avec l'âme collective d'Israël. Donc, l'âme collective a le droit de dire qu'elle se permet de faire le Shabbat. D'accord ? D'accord. Mais ça, c'est un sujet qu'il faudrait développer. Dans quelle mesure la mitzvah est une coercition, dans quelle mesure elle est le fruit de l'acceptation intérieure. Dans le Zohar, il n'y a qu'à apprendre le français. Dans le Zohar, par exemple, il y a deux expressions pour parler des mitzvot. Il y a une expression qu'on appelle Taryag Pikudin, ce qui veut dire 613 commandements. C'est la traduction du mot hébreu mitzvot. Mais il y a une autre expression, c'est Taryag Aitin, qui veut dire 613 conseils. C'est comme ça que le Zohar comprend cela. C'est-à-dire qu'il y a, un niveau de perception qui fait qu'on appelle ça des conseils. D'accord ? Coercition, ça veut dire contraindre quelqu'un. La coercition, ça veut dire la contrainte. Non, ce n'est pas un nouveau mot, c'est dans tous les dictionnaires en français, tu n'as qu'à passer. Quand tu n'as rien à faire, par exemple, tu n'as qu'à prendre un dictionnaire, par exemple le Larousse, Petit Robert, enfin n'importe quoi, et puis tu passes comme ça sur les mots, tu vois, les définitions. Et alors tu apprendras sur des tas de noms de fleurs que personne ne connaît, mais c'est pas grave. Ouais, des animaux, des ustensiles dont personne ne se sert plus, ça existe dans les dictionnaires. Enfin bon, d'accord. Oui. Bon. Donc le septième jour a pour finalité la sainteté, et viendra un jour où cette sainteté sera acquise. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas défini ce que c'est exactement la sainteté. Quand est-ce que j'ai dit ça ? Dans Bereshit, j'ai dit ça ? Certainement pas. C'est... Ah, dans la Tfila. Dans la Tfila, c'est autre chose. Mais dans ce cours, je n'ai pas expliqué ce que c'est la sainteté, et en fait, je vous ai caché ce que c'est vraiment. D'accord ? Non, d'accord, mais il faut comprendre un peu de quoi il s'agit. Quand la Torah nous dit « Soyez saints », d'accord ? « Kedoshim Tiyu », ou « Vous serez saints ». D'accord ? Deux manières possibles de traduire le « Kedoshim Tiyu ». La Torah rajoute une raison à cela. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Kedoshim tiyu, ki kadosh ani. Vous serez saints, car je suis saint. Et la question se pose, mais quel rapport ? J'ai les yeux verts, donc il faut que tu aies les yeux verts. J'aime les caramels mous, tu dois aimer les caramels mous. Enfin, on ne voit pas très bien le rapport. Akadosh Baruch Hu, il est saint. Très bien. Mais pourquoi est-ce que, parce qu'il est saint, je dois être saint ? C'est lui ressembler. Mais pourquoi devrais-je lui ressembler ? À l'écrire à l'image de Dieu. En fait, je vais vous dire comme ça. Si vous regardez bien la forme de la phrase, la syntaxe, comme on dit, syntaxe, c'est un mot français. Qui veut dire. Hein ? Je n'ai pas très bien compris. Bon, ce que je veux simplement. Non, je. Je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire là. Je vais essayer de dire. Je peux dire moi aussi ? Tu veux dire quelque chose ? Bon. C'est comme si Akadosh Baruch Hu disait voilà, pour l'instant je suis le seul à être saint. Donc je suis seul. Vous voulez pas être saint vous aussi, comme ça on pourra jouer ensemble ? Si quelqu'un dit soyez saint parce que je suis saint, ça veut dire qu'il se sent seul. Il se sent seul. Oui, si Dieu dit, voilà, je suis le seul à être saint, et donc je vous demande d'être saint vous aussi. Ça veut dire, pour qu'on puisse jouer ensemble. Ah, ça y est. Donc il faudrait qu'il y ait ce problème du mérite. Tu veux dire quelque chose ?
C'est pas une histoire de dire que le clan, lui, peut être saint, alors que Hachem, lui, tout seul, il est saint, et que nous, chaque individu ne peut pas l'être pour soi. Donc
C'est possible qu'on a besoin de l'aide du klal pour ça. D'accord ? Mais la motivation qu'a Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ? C'est d'avoir quelqu'un à rencontrer. C'est comme ça, par exemple, toi tu sais jouer aux échecs, mais il n'y a personne qui sait jouer aux échecs comme toi. Alors tu vas lui apprendre à jouer aux échecs pour que tu puisses faire un match avec lui. D'accord ? Donc on peut dire que le jeu, ce qu'on appelle l'amusement, c'est pas n'importe quoi. Il y a ici une réalité métaphysique extrêmement profonde. C'est le désir du créateur de rencontrer quelqu'un avec qui il peut dialoguer. Alors maintenant, vous posez des questions de logique, des questions métaphysiques à n'en plus finir. Comment se fait-il qu'un Dieu qui est autosuffisant a besoin d'un autre ? Ça, c'est des questions pour les philosophes. Oui ? Ça, c'est des questions donc pour les philosophes. Mais nous autres, les élèves de Moshe Rabbeinu, on s'en fiche pas mal des philosophes, parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce que Akadosh Baruch Hu s'est manifesté à nous, et non pas des problèmes de métaphysique générale. Oui ?
Mais dire qu'il se sent seul, ça veut dire qu'il y a un manque ?
Oui, c'est un manque. C'est ça. Donc il y a un problème métaphysique. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu, qui est autosuffisant, a besoin de quelqu'un d'autre ? C'est un manque. Ça, c'est une question donc pour les philosophes. Comme nous, les élèves de Moshe Rabbeinu, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont Akadosh Baruch Hu s'est révélé à nous, et non pas les problèmes de métaphysique générale. Donc on s'en fiche pas mal de répondre à la question, pour l'instant en tout cas. Je l'aurais déjà dit ? Non, pas possible. D'ailleurs, comment s'appelle Monsieur Alzheimer, son prénom, j'ai oublié. Enfin bon. Il y a le problème de la sainteté. La sainteté, c'est, sans savoir encore ce que ça veut dire exactement, pour l'instant, je n'ai pas défini la sainteté, je ne sais pas ce que je vais le faire dans ce cours. Mais l'état de sainteté est un état d'être où il y a une rencontre sans intermédiaire, une rencontre directe entre la créature et le créateur. D'accord ? C'est ça qu'on appelle Kedusha, la sainteté. Et il y a pour cela un moment du monde qu'on appelle le huitième jour où c'est réalisé. D'accord ? Pendant le septième jour, on doit réaliser ça. Viendra un temps où la Torah dira... Ils furent saints. Hein? Vayu Kedoshim, ils furent saints. Vayar Elohim Kitov, Dieu vit que c'était bon. Vayi Are, Vayi Boker, Yom Hashevi, il fut soir, matin, septième jour, et après commencera donc le huitième jour. Oui?
Vous avez expliqué pourquoi on devait être saint, mais vous n'avez pas expliqué ce que c'était être saint.
Nachon. Je n'ai pas expliqué ce que ça veut dire être saint. D'accord? Mais que représente cette situation? Ça, je l'ai expliqué. D'accord. Maintenant, cette situation de sainteté, elle appartient au huitième jour. Maintenant, il y a un petit problème. C'est que la Torah dit expressément que le huitième jour a commencé. Dans le livre de Vayikra, chapitre 9, verset 1, il est dit « Vayehi bayom hashemini » et ce fut le huitième jour.
C'est dans un sujet précis, non ?
Dans un sujet précis, bien sûr.
Le sujet
là-bas, c'est l'inauguration du Mishkan. Dans l'inauguration du Mishkan, la Torah nous dit « Vayehi bayom hashemini ». Or, le Mishkan est appelé dans la Torah Mikdash, Ve'asuli Mikdash. Ils nous feront un sanctuaire. Rashi explique c'est quoi un sanctuaire, Mikdash. Rashi dit ça veut dire Ba'it Shel Kedusha, une maison de sainteté. Ça veut dire quoi une maison de sainteté ? C'est-à-dire un lieu dans la géographie terrestre où la rencontre entre la créature et le créateur est possible. Maintenant, ça demande certaines conditions, mais cela est possible. Et quand ça commence, eh bien on dit, et ce fut le huitième jour. Donc, le huitième jour a commencé. Ah, très bien. La Torah ne nous dit pas que le septième jour est fini. Donc, le septième jour n'est pas fini, mais le huitième jour a commencé. Alors, comment ça se passe ? Ça se passe entre l'extérieur du Beth Amikdash et le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y a déjà le huitième jour. C'est-à-dire, si on veut savoir de quoi aura l'air le monde dans le huitième jour, eh bien, c'est pas difficile. On fait une visite au Beth Amikdash et on sait. D'accord ? Mais non, ça c'est dans l'espace. Il y a également un Mikdash dans le temps, ça s'appelle le Shabbat. Il y a un Mikdash dans l'être humain, c'est Israël, l'âme d'Israël. D'accord ? C'est ça que la Torah parle du septième jour de Yom HaShabbat, Vayekadeshehu, un temps saint, qu'il y a une nation sainte, Goy Kadosh, et qu'il y a un lieu saint, Mikdash.
Mais au niveau du Goy Kadosh, on ne l'a pas encore réalisé.
Au niveau du Klal.
Au niveau du
clal, c'est réalisé. Au niveau de l'individu, c'est pas encore réalisé. Enfin, c'est en progression. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien compris.
On est d'accord ?
On est d'accord, mais c'est génial. On est proche des temps messianiques absolus. Bon, très bien. Par jalousie. Non, c'est vrai, c'est la jalousie. Ah, par humilité. Non, bien sûr. La Guémara dit, pourquoi est-ce que la Torah nous appelle Hameat Mikola Hamim, le moindre des peuples? C'est parce qu'à chaque fois que je vous ai donné de la grandeur, vous vous amoindrissez devant moi. D'où la haine de soi chez les Juifs, qui a pour origine une humilité extrêmement profonde. C'est-à-dire que nous avons horreur d'entendre parler de la notion de peuple élu. C'est une horreur qui est innée en nous. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des preuves que nous sommes vraiment le peuple élu. Parce que le seul peuple qui ne se prétend pas être le peuple élu, c'est celui qu'il est vraiment. C'est vraiment celui qu'il est. Bon. Bon. Donc, le huitième jour a commencé dans le Beit HaMikdash. C'est une sorte d'anticipation. Si vous voulez, c'est comme une ambassade du huitième jour. C'est quelque chose d'extraterritorial. Donc, si c'est quelque chose d'extraterritorial au monde, alors appelons ça comme ça l'est. C'est un corps étranger. Le Beit HaMikdash est un corps étranger dans le monde. Le monde est un monde de nature. Et puis, brusquement, il y a un élément, pourrions-nous dire, qui transcende la nature, la présence du Beit HaMikdash parmi nous, c'est quelque chose d'anormal. Quelle est la réaction naturelle d'un être naturel par rapport à un corps étranger? Il le rejette. Ce qui vous explique pourquoi le Beit HaMikdash, périodiquement, est détruit. Donc le problème n'est pas... Pourquoi est-ce que le vrai problème, c'est pas quand le Beit HaMikdash est détruit, c'est quand il est construit que ça fait problème. Comment se fait-il qu'il y ait un élément du huitième jour en plein septième jour? Ça fait désordre. Alors c'est pour faire goûter. Comme tu dis, c'est pour faire avancer. C'est-à-dire, ça donne un peu l'intuition de ce que ça va être. Petit à petit, ça va avancer. D'accord? Mais, en vérité, le Beit HaMikdash n'est pas fait pour durer. Il ne peut pas tenir le coup. Le Mishkan a été détruit, le premier temple détruit, deuxième temple détruit. Terrible. C'est normal, c'est l'état du monde. Alors le troisième temple ne sera pas détruit. Mais alors pourquoi? Ben, pourquoi? C'est parce qu'il y aura une réconciliation, une sorte de fusion entre le monde et le Mikdash. C'est-à-dire quand on entre dans le huitième jour, transformation du monde. Alors, pourquoi le troisième? Pourquoi pas le 94e? D'accord, d'accord, je vais y répondre. Mais je voudrais vous rappeler qu'il y a eu, il y a un peu plus de deux siècles, il y a eu dans un des pays barbares d'Europe, il y a eu une révolution universelle dans laquelle... Oui, oui, oui. Il y a eu une révolution universelle. Et alors, les Européens en question ont une réaction extrêmement violente contre le christianisme, contre la noblesse, contre le clergé, tous ces machins-là. Et ils ont également rejeté, à un moment, le culte chrétien. Mais, les... Oui. Alors, mais enfin... un des grands révolutionnaires du nom de Robespierre a décidé qu'enfin on ne pouvait pas laisser le monde sans religion, et donc ils ont inventé ce qu'on appelle le culte de l'être suprême. À l'Assemblée nationale, alors, a été votée une loi comme quoi Dieu existe. C'est important parce que Dieu était dans l'illégalité totale, il était hors la loi, et grâce au décret de l'Assemblée nationale, il a eu le droit d'exister, mais ils ne l'ont pas appelé Dieu parce que ça faisait trop ecclésiastique, trop religieux, ils l'ont appelé l'être suprême. Alors, ils ont déclaré la chose... C'est des choses très importantes, comprenez un peu ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont dit que l'être suprême a pour qualité la vérité et la vertu. Et que son sanctuaire, c'est le monde. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Le sanctuaire de l'être suprême, c'est le monde. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? Ils ont voulu dire qu'il y en avait assez de faire un corps étranger. C'est-à-dire, le divin fusionne avec l'univers. En fait, c'est une sorte de panthéisme, inspiré par Spinoza, etc. Et ils ont fait quelque chose de très intéressant, ils ont supprimé la semaine. Ils ont institué la décade. Exactement. Oui, c'est eux. Ben oui. Le calendrier révolutionnaire, tout ça, c'est basé là-dessus, sur cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a l'être suprême, et puis après, bon, on en a fini avec le septième jour. Donc, il n'y a plus de semaine. Ça a duré jusqu'au début du consulat. Ça a duré 12 ans, à peu près.
12 ans?
Oui, 12 ans. Mais enfin, non, mais très rapidement, ils ont fait les deux dates, quand même. Et puis, enfin, finalement, ça a été complètement... Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils ont eu cette intuition-là, ils ont peut-être été inspirés par des gens inspirés de la Kabbalah, et on sait qu'il y avait certains franquistes qui ont participé à la Révolution française, comment ? Il y avait des francs-maçons, donc des symbolismes de ce genre, etc. Tout ça faisait partie de l'atmosphère de l'époque. Et donc, il y a eu cette idée-là de supprimer la semaine. En fait, c'était une anticipation de quelque chose de très important. Comment ? Peu importe, pour supprimer, tu rallonges. C'est pas 8 jours, c'est 10. Il y a un midrash qui dit d'ailleurs que dans ce monde, on loue Dieu avec une lyre de 7 cordes, mais que dans le temps à venir, ça sera avec 8 cordes au temps du Mashiach, et que dans le Olam Haba, ça sera avec 10 cordes. Ouais. Donc ces midrashim peut-être étaient connus dans l'atmosphère de l'époque. Hein ? Oui, alors dans la terreur, ils aidaient les gens à passer rapidement au Olam Haba. Ouais, c'était tchic-tchac, ouais, rapidos. Quoi. Et alors, en tout cas, il y a cette idée-là qu'il y a une sorte de conflit entre la sainteté et le monde, et donc il y a cette attente de cette fusion. Maintenant, si vous regardez dans le livre de Zecharia, dans le livre de Zecharia, il y a une description très intéressante de cela. On nous dit que je vais vous lire ça dans le texte, si déjà. Voilà. On y arrive. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. Vehaya hasirot bevet Hashem kamizrakim lifnei hamizbeach. D'accord ? Ça veut dire les simples vases dans la maison de l'Éternel seront comme les bassins devant l'autel. Bon, ça veut dire quoi ? Vous savez, dans le Beth Amikdash, dans la cour du Beth Amikdash, on faisait des sacrifices. Et on se servait d'ustensiles. Il y avait un ustensile extrêmement sain qu'on appelle le Mizrak. Le Mizrak, c'est une sorte de vase dans lequel on reçoit le sang de la victime. C'est-à-dire, on abat un agneau, par exemple, et son sang est récolté dans une sorte de vase qu'on appelle Mizrak. Je sais pas, c'est à peu près comme ça. D'accord ? Comment ? Quoi, dans un agneau ? C'est quoi la taille d'un agneau ? Un agneau, c'est à peu près comme un gros chien. C'est tout, voilà, c'est tout. Oui, mais attention, pas tout le sang se vide. Bon, rentrons pas dans le détail maintenant. On prend le sang et on le jette sur l'autel, sur le misbéach. Ça s'appelle le misraf. Après, on cuisine la chair de l'agneau. Pour ça, il y a une sorte de bassin. Ça s'appelle une marmite, quoi, en fait, dans laquelle on cuit. Alors, il y a la sainteté de la marmite est moins grande que la sainteté du misraf. Et le prophète nous dit, oui, mais il y aura tellement de sacrifices à faire qu'on prendra même les marmites, on s'en servira comme un misrak. D'accord ? C'est-à-dire, Ve'aya hasirot bevet Hashem, kamizrakim lifne amizbeach. Quoi ? On sanctifie, alors on les sanctifiera, on en fera des misrakim, on n'aura pas le temps de les fabriquer. On dira, ben voilà, ça va servir de misrak, ça va monter de degré. Oui, mais il n'y aura pas le temps. Il y aura la grève des fabricants de Mizrakim, mais alors entre temps, il faudra absolument. Voilà. Bon. Vehaya, Kol Sir Birushalayim Uviyuda. Et alors, toutes les marmites à Jérusalem. Alors, ça devient beaucoup plus que ça. On pensait pour l'instant les marmites qu'il y avait dans la cour. Et puis, on dit toutes les marmites de Jérusalem. Uviyuda, et en Judée. C'est-à-dire, jusqu'à Tel Aviv. Kodesh Lachem Tsevaot seront sanctifiés pour l'Éternel des armées. Ou va où Kolazofrim, etc. Donc ça veut dire que la sainteté de la cour du temple va s'étendre à Jérusalem et de Jérusalem à toute la Judée. C'est-à-dire que le temple fait tache d'huile. C'est-à-dire ce lieu qui jusqu'à présent était un implant qui n'arrivait pas à être reçu, eh bien maintenant, la sainteté va en grandissant, et le Jérusalem devient le Beth Amikdash, etc. Et après, il y a un verset terrible. Bayom ahu yiye al metzilot asus kodesh lachem. En ce jour, sur les ornements frontaux des chevaux, c'est-à-dire sur le cheval, il y a un ornement qu'il met sur son front. Il y aura écrit Kodesh Lachem, consacré au Seigneur, ils traduisent ici. Vous avez déjà vu un ornement frontal sur lequel il y a écrit Kodesh Lachem? Le diadème du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il portait un diadème sur lequel il y avait écrit Kodesh Lachem. Et le prophète nous dit, le diadème des chevaux portera cette inscription. Passera au cheval. D'accord? C'est-à-dire, c'est donc une sorte de réconciliation de la sainteté avec la nature, donc ça ne peut pas être détruit. C'est le monde qui entre dans le huitième jour. Maintenant, je vais vous dire, il y a une tradition qu'on trouve dans les Tosfot des sages d'Angleterre. Vous savez que c'est les Tosfot. Les Tosfot, ce sont les sages qui sont venus dans les générations après Rashi. Pendant les deux siècles après Rashi, il y avait en France des Chachamim qu'on appelait des Baalei HaTosfot. Et il y en avait également en Allemagne et en Italie, et il y en avait eu un moment en Angleterre. Les Tosafot des sages d'Angleterre, ça s'appelle Tosafot Rachmi Anglia. Et dans les Tosafot des sages d'Angleterre, dans le traité de Sanhedrin, il y a une tradition qui est amenée, qui est absolument incroyable. Je crois que c'est le seul endroit où j'ai vu ça, où il est dit que le troisième temple tiendra pendant 830 ans. C'est très embêtant. Si c'est que 830 ans, pourquoi tellement travailler s'il doit être lui aussi détruit? En fait, c'est pas vrai du tout. 830 ans, ça veut dire que pendant 830 ans, il y aura encore cette séparation. Mais après 830 ans, le monde fusionne. C'est-à-dire, il n'y a plus de Beth Amikdash parce que le monde entier devient le Mikdash. Maintenant, c'est quoi 830? C'est 410 plus 420. N'est-ce pas? Non, la durée de l'existence du premier temple plus la durée du deuxième temple. Donc 410 plus 420, ça fait 830. Ça explique pourquoi c'est justement le troisième temple qui ne sera pas détruit. Parce que le troisième temple sera une synthèse des deux premiers. C'est quoi la synthèse? Et donc il faut comprendre pourquoi est-ce que le premier...
Synthèse des deux premiers qui, eux, ont été détruits.
Oui, mais pourquoi est-ce que le premier a été détruit et pourquoi le deuxième a été détruit? Alors enseigne... Comment? Parce que... Exactement, parce que dans le premier il n'y avait pas le deuxième, dans le deuxième il n'y avait pas le premier. Et que 2 plus 1 ça fait
3.
3, très bien. Vous êtes très fort en maths. Et donc, le premier temple a été détruit parce que il n'avait en lui que ce qu'on appelle la sainteté du klal. Le Rav Kook explique ça très longuement dans son Les Ma'alach HaEliyot B'Yisrael, dans le livre de Horot. Il explique la chose suivante. La grandeur de l'époque du premier temple était telle que l'âme collective d'Israël était ressentie de manière extrêmement forte. Et donc l'individu n'avait pas le temps de se développer. Il y avait de cela un exemple, par exemple, lors de l'inauguration du premier temple. Il y a une fête. Il y a une description de cela dans le Tanakh, dans la Bible. Et qu'est-ce qu'il y a écrit à ce propos? Ben, il est dit que la fête qu'a fait le roi Salomon pour l'inauguration du premier temple, elle a duré depuis le 8e jour de Tishré jusqu'au 14e jour de Tishré. C'est-à-dire pendant toute la semaine avant Soukhot, on a fait la fête. Pendant toute la semaine avant Soukhot, donc il y a eu des sacrifices, avec consommation, il y avait des holot, des shlamim, et tout le peuple mangeait pendant 7 jours des agneaux, des vaches, etc., en l'honneur de l'inauguration du premier temple, depuis le 8 Tishré jusqu'au 14 Tishré. Ça vous embête pas, ça? Il y a eu une fête inaugurale, faite par le roi Salomon pour inaugurer le premier temple. D'accord? Cette fête a duré pendant 7 jours. Elle a duré depuis le 8 Tishré jusqu'au 14 Tishré. Jusque-là, ça va? Ah! Non, c'est pendant cette semaine-là, il y a Kippour. Le 10 Tishré, c'est Kippour. Donc, ils ont mangé à Kippour. Si, ils ont mangé à Kippour. Pourquoi ils ont mangé à Kippour? Raison très simple. c'est que Kippour, ça vient régler les problèmes des péchés individuels. Moi, j'ai fait un péché, toi, tu as fait un péché, lui, il a fait un péché. Chacun individuellement doit se purifier. Mais l'inauguration du temple, c'est la joie du klal. Alors pourquoi est-ce que l'individu s'occuperait de ses problèmes personnels alors qu'il s'agit maintenant de sanctifier le klal ? Ils avaient le droit, bien sûr. Il y a un prophète qui leur a dit que c'était possible, etc. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un prix à payer. C'est vrai, donc il y a le klal, mais l'individu n'est pas entraîné par cela. Et donc, c'est ça qui a amené, finalement, les grands péchés qui ont amené la destruction de l'État de l'époque. D'accord ? D'ailleurs, il y a un truc intéressant. Vous savez que la Bible dit qu'au temps du roi Salomon, l'or et l'argent traînaient dans les rues à Jérusalem. D'accord ? Quel a été le premier acte des Hébreux après la mort de Salomon? Ils ont lapidé le ministre des Finances. Ça veut donc dire que cette richesse était une richesse royale, une richesse de l'État, mais l'individu souffrait, lui. D'accord? Donc il y avait le klal, il n'y avait pas le prat. Le deuxième temple, sa grandeur, c'était justement la kedusha, la sainteté de l'individu, kedusha ta prat. Tous étaient des tzadikim, mais comme c'était des tzadikim, ils se détestaient les uns les autres. Parce qu'il n'y avait pas de colle, il n'y avait pas de ciment entre les individus. Et c'est donc le péché du deuxième temple, c'était la haine gratuite, la sinatrinam. Donc ce qui manquait au deuxième temple, c'était le premier, le klal. Donc si le premier se distingue par sa qualité de klal et le deuxième par sa qualité de prat, et que le manque de l'autre, c'est ça qui a entraîné la destruction, si on fait une synthèse du premier et du deuxième, on a klal, shoutsach, li prat, prat, shoutsach, li klal. C'est une fusion harmonieuse du klal et du prat, et donc il ne peut plus être détruit. D'accord, vous avez compris ? Quoi ? Hein ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Si on fait une analyse de comment ça s'est passé, c'était ça. D'ailleurs, on n'a qu'à voir dans les textes historiques qui parlent de la destruction du temple, on voit très bien ça. Par exemple, tout ce que montre Flavius Joseph à l'époque du deuxième temple, comment c'est ça qui a amené la dislocation de l'État. Toutes les marlocotes qu'il y avait entre Chassidim et Mitiavnim, et puis après entre les Sadducéens et les Pharisiens, et puis entre Beth Shammai et Beth Hillel, et les différentes factions des Zélotes à Jérusalem. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Tu veux plus? Bon, d'accord, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire?
Salomon, il n'a pas fait en sorte
que quoi?
Que c'est en tâche pour
pratique. Non, justement, Shlomo, il était comme ça. Il pensait que tout allait se faire à travers sa personne. Et donc, oui, il était le Mashiach, si vous voulez. Il était loin, il était donc Mashiach, fils de David. Ça aurait pu marcher. Il s'est dit, je vais réaliser l'unité du monde entier à travers mon palais. Et donc, il s'est marié avec 1000 femmes. Il a épousé les princesses de toute la planète pour être lui le personnage universel.
Dieu lui a demandé de faire ça ?
Non, mais c'était son idée. C'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Quoi ? Oui, mais enfin 1000 femmes, c'est très difficile. Hein, quoi ?
Pourquoi les prophètes, ils ont...
Que quoi ? Justement, parce que les prophètes étaient incapables de le faire. Parce que le prophète, justement, il a une vision clalite. C'est-à-dire, le prophète voit, par exemple, quelque chose d'horrible. Il dit, ainsi parle l'Éternel, tout va mal. Alors, tout le monde est ébranlé. Ils entendent le prophète parler, ils disent, oh là là, il a raison. Qu'est-ce qui va pas, monsieur le prophète ? Eh bien, il y a ici de la débauche, il y a de l'idolâtrie, du vol, de l'assassinat. Oh, il a raison, le prophète. Tu viens, Germaine ? Alors, on rentre à la maison, après avoir entendu le prophète, et puis on refait la même chose. On continue. Pourquoi ? Parce que le prophète ne voit que l'image dans son ensemble. Les prophètes ne sont pas capables de voir les causes au niveau du prat de ces choses-là. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors, qu'est-ce qu'ont fait les rabbins à l'époque du deuxième temple ? Ils ont fait le contraire des prophètes. Ils ont dit, voilà, vous autres les juifs, on ne va pas vous parler de grandes choses. On va vous dire comment vous lavez les mains le matin. Alors, vous voyez, un bon juif, quoi, il écoute les rabbins. Il veut se réveiller le matin. Non, non, il ne faut pas toucher les yeux. Il n'est pas encore lavé les mains. Bon, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Alors, va te laver les mains. bon, ça va. Non, faut pas mettre les mains dans l'eau. Allez, tu as souillé cette eau. Verse cette eau-là, prends-en une autre. Bon, ça va. Alors, il cherche... Non, ça va pas, mon vieux. Il y a ici une entaille. Jette ce, Kelly. Prends un autre. Bon, il prend un autre. Très bien. Oui, mais l'eau n'est pas assez propre. Bon, alors verse, on va prendre une autre. Bon, d'accord, maintenant je peux me laver les mains? Oui. Non, mais pas comme ça, sur la droite, sur la gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ouh là là, tout ça, que pour pouvoir encore se toucher les yeux. Après, c'est pas fini, c'est-à-dire que toute la journée, il va être accompagné par des halakhot. Et chaque halakha est minutieuse. Elle lui dit comment bouger ce petit doigt. D'accord? Et ce que ça a créé des personnes petites, mais morales. Alors qu'à l'époque du premier temple, il y avait des personnalités extrêmement grandes, mais immorales. Non, c'est pas moral de se laver les mains. Mais ça crée une attention permanente pour chaque moment de la vie. Et donc, ça crée une conscience qui permet de dominer le Yetzer Hara avant même qu'il ne grandisse. C'est comme les racines des baobabs. Tu sais, il y a un arbre qu'on appelle le baobab, qui est extrêmement dangereux. Mais... quand il y a des toutes petites racines. Oui, bien sûr. Mais si tu es assez attentif, tu arracheras la racine du baobab avant qu'elle ne grandisse. Mais si tu traînes trop, imagine que tu as une toute petite planète, trois baobabs font éclater ta planète. Donc, les enfants, faites attention au baobab. D'accord ? Le baobab, c'est quoi ? C'est le Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara. Le baobab, c'est la même chose. C'est un arbre gigantesque. Tu ne peux pas le déraciner. Mais quand est-ce que tu ne peux pas le déraciner? Quand il a grandi. Mais quand il est encore tout petit à l'état de racine, tu peux arracher la racine du baobab, tout va bien. Et bien, c'est ça qu'ils ont fait les rabbins en te disant comment te laver les mains le matin. C'est-à-dire, l'acte en lui-même n'est pas un acte moral absolu. Bon, on peut trouver une finalité morale, mais ce n'est pas ça le problème. C'est d'être attentif à la manière dont la vie me traverse, et donc ça permet de dominer les épanchements violents de la vie en direction du Yetzer Hara. Comment ? D'accord, c'est ça. Donc c'est pour ça que les Chachamim sont plus efficaces que les prophètes. La Gemara dit Chacham Adif Minavi. Le sage est plus efficace que le prophète. Ça ne veut pas dire qu'il est plus grand que le prophète. Le prophète est beaucoup plus grand que le sage. Mais l'efficacité pédagogique est plus grande chez les Chachamim. Oui ? Exactement. C'est-à-dire le sage est capable de voir quelle est la loi qu'il faut faire. Le prophète, bon, il dit, ben, il faut faire le bien, il ne faut pas faire le mal. Oui, mais comment est-ce qu'on y arrive? Pourquoi est-ce que je veux faire le bien? Pourquoi je ne veux pas faire le mal? Il faut m'éduquer. D'accord? Oui. Absolument pas. La Gemara explique qu'on ne base pas une halakha sur les psukim des prophètes. Mais uniquement sur les... Alors justement, tout un problème. Quand est-ce qu'on a le droit? Mais le principe, c'est que la halakha vient de la Torah de Moshe et pas de la Torah des prophètes, justement. C'est important. Moshe, lui, est capable de faire cette synthèse. Il la faisait en lui-même. Mais ce n'est pas le cas de tout Israël. Alors maintenant, ce qui se passe dans l'histoire, il y a tout un mouvement de balancier entre le prophétisme et la sagesse qui fait que à la fin de l'histoire, la sagesse l'emporte tellement fort qu'elle fait disparaître l'élan collectif, la vision d'ensemble. Et c'est ce qui se passe, c'est que se crée une réaction contre les Chachamim. C'est ce qui se passe de nos jours. Et ça fait déjà à peu près 100 ans que la sagesse des Chachamim a été délaissée par les Juifs. Parce qu'ils se sont dit, vous avez exagéré au niveau du Prat, vous n'avez pas fait attention au Klal. Et donc, il est en train de se créer une synthèse entre le Klal et le Prat qui fait que la Neshama de Moshe va enfin pouvoir revenir. D'accord ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.